l'environnement, c'est par excellence un domaine où il est nécessaire de dépasser les politiques nationales. Hein. D'abord parce que les choix effectués dans un pays ont vu tout de suite des conséquences sur les autres pays. Et puis notamment, j'évoquais les émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique qu'elles induisent. Eh bien, par définition, elles ne connaissent pas de frontières. Donc, crise écologique globale, il est nécessaire de trouver des réponses sur des échelles globales, mondiales à l'extrême, mais régionales et locales également. Donc, en ce qui concerne la politique d'environnement, il est clair que l'Union européenne constitue une échelle essentielle d'intervention. Donc, je montrerai dans ma conférence de ce soir où nous en sommes un petit peu à ce sujet, en gardant très présent à l'esprit que la question environnementale ne peut pas être traitée indépendamment des autres politiques et institutions qui portent ces questions. Et je montrerai aussi que l'exigence d'une Europe écologique ne saurait être séparée de celle d'une Europe sociale et d'une Europe démocratique. À partir de là, je montrerai d'abord en quoi le droit environnemental européen donc est quelque chose qui est nécessaire, qui est utile, mais je montrerai comment concrètement ce droit environnemental européen, qui, il faut bien le dire, se caractérise par une très grande inflation. Il y a eu énormément de directives, de règlements qui sont parus sur les questions environnementales, très grande inflation de droits, mais une application qui laisse beaucoup à désirer, des objectifs qui sont très timides, voire même parfois un peu contradictoires avec la nécessité de protection de l'environnement, et un droit environnemental qui est très dépolitisé en réalité.
Alors, est-ce qu'on peut peut-être donner un exemple concret pour illustrer, pour que les auditeurs comprennent bien de quoi on parle ?
Bien sûr. Je dirais que le droit environnemental, quand on lit les textes européens, part toujours de principes, de volontés qui sont bonnes, qui sont justes de protéger l'environnement. Mais je disais que le droit environnemental européen était dépolitisé parce qu'il ne touche pratiquement jamais aux causes premières de la dégradation environnementale. Et on sait bien que l'Union européenne et la commission de Bruxelles fonctionne selon les règles fixées par les traités européens, hein, donc bientôt le traité de Lisbonne, qui fait suite au projet de constitution européenne, mais qui en fait en est une version à peine modifiée, hein, cette constitution qui, je le rappelle, a été refusée par les Français par le référendum du 29 mai 2005. Et ce droit européen environnemental, il est donc conforme au principe de base qui régit les traités européens, c'est-à-dire la concurrence libre et non faussée. Donc à partir de là, à partir du moment où on dit le plus important, le point prioritaire dans la construction européenne, c'est la liberté de commerce, la liberté de circulation des marchandises, on s'aperçoit que si on veut protéger l'environnement, il faudrait introduire des limitations à ces libertés. Donc là, il y a une certaine contradiction, et la politique environnementale de l'Union européenne, elle choisit clairement de placer en position seconde l'environnement et de privilégier la liberté de circulation. Hein. Alors un exemple tout à fait essentiel, c'est la fameuse directive sur l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, qu'on appelle en abrégé directive REACH, donc qui visait à imposer aux producteurs de produits chimiques toxiques des évaluations des conséquences de leur production sur la santé humaine et sur l'environnement. Eh bien, on s'aperçoit que sur les 100 000 produits chimiques qui sont produits dans l'Union européenne, la Commission de Bruxelles, au nom de la protection du commerce, de la liberté du commerce, a élaboré ce droit en demandant leur avis aux industriels. C'est ce qu'on appelle à Bruxelles le droit négocié. Et à la sortie, qu'a-t-on vu ? Eh bien, c'est que sur ces 100 000 produits chimiques, il en est resté seulement une dizaine de milliers qui vont très progressivement faire l'objet d'analyses de risques pour la santé et l'environnement. Hein, autrement dit, on a un très fort affaiblissement de la protection de l'environnement du fait de cette priorité donnée au commerce. Deuxième exemple, je crois, auquel tout le monde est assez sensible, c'est l'étiquetage des produits contenant des OGM. Dans le droit européen, toujours au nom de la protection du commerce et de la liberté de circulation des marchandises et des produits dans toute l'Europe, l'Union européenne a décidé que la mention OGM n'était obligatoire que pour les produits contenant plus de 0,9% d'OGM. Donc ce qui veut dire par exemple pour l'agriculture biologique, on pourra avoir un seuil de 0,9% et on considérera que c'est de l'agriculture biologique. Mais tous les spécialistes vous diront que dès lors qu'on a ne serait-ce que des traces d'OGM dans des produits agricoles destinés à l'alimentation humaine, ça ne peut plus être de l'agriculture biologique. Donc ce type de souplesse dans les seuils pour ne pas trop gêner l'industrie et le commerce revient à tuer toute possibilité de réelle filière biologique.
Autre enjeu environnemental, c'est la question du transport, puisque j'en profite puisque vous êtes quand même un expert sur cette question. Donc, comment vous voyez la politique, si on a une politique européenne de transport
La politique des transports, elle est un petit peu aussi l'illustration typique de ce que je disais à l'instant concernant la contradiction entre une politique de libre circulation et une politique de protection de l'environnement. En Europe, les transports sont vraiment en première ligne pour les pollutions atmosphériques, qu'elles soient locales ou globales. Hein. Bon, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais simplement l'Agence européenne de l'environnement, très récemment, a montré que si les émissions de gaz à effet de serre dans l'Europe des 25 ont bel et bien diminué de 7,9% entre 1990 et 2005, les émissions du secteur des transports, elles ont cru de 26% sur la même période, entre 90 et 2005. Hein? Et que donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait d'énormes progrès en 15 ans sur les véhicules ou sur les carburants, mais ces progrès ont été complètement annulés par la croissance des trafics, et en particulier les trafics aériens et routiers. Or, la croissance des trafics, elle est encouragée par la politique de transport dans l'Union européenne, qui se base sur un principe que plus on a de déplacements, plus on aura de croissance économique. Et naturellement derrière, que plus on aura de croissance économique, plus on aura d'emplois et de bien-être. Donc même ça n'est pas prouvé. Vous savez que la croissance est à juste titre très contestée. Donc à partir de là, on a une absence de limitation des transports qui fait qu'on ne peut pas avoir une politique d'environnement. Et la politique de l'Union européenne vise au contraire à faciliter les transports, à faire en sorte qu'ils coûtent le moins cher possible, mais c'est précisément la sous-tarification des transports qui permet aux entreprises transnationales, par les délocalisations, par la gestion à zéro stock ou à flux tendu, de multiplier les transports sur nos routes, et donc multiplier les transports, ce qui veut dire multiplier la pollution et les nuisances, multiplier les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça signifie très clairement que si on veut une politique européenne de protection de l'environnement, local ou global, il faut revenir sur la priorité absolue qui est donnée à la libre circulation des marchandises et même à la priorité est même donnée à l'accroissement du transport des marchandises et des déplacements.
Dans quelques minutes, la suite de notre entretien téléphonique avec Philippe Mühlstein, invité par Attac Artois-Ternois. C'est ce soir à l'UFM d'Arras, juste après une pause musicale de circonstance.
Debout, évaluer l'envergure des problèmes. Ceci n'est pas une demande, mais un besoin pour que l'espoir revienne. L'homme organise sa destruction. Analysons la situation pour que vous puissiez comprendre ma vision. Un trou dans la couche d'ozone. Cela devient banal de parler d'ozone, mais sans elle, personne n'est autonome. Car l'ozone nous protège du soleil. Et sans un radical changement dans les comportements, ni la prévention, ni les conseils, ne stopperont cette catastrophe naturelle. Naturelle, naturellement pas. Car les victimes sont les fautives cette fois. Comment survivre dans un monde contrôlé par l'économie, où les problèmes écologiques sont délaissés, préférant le profit? Comment ne pas respecter la nature, sachant
pouvez-vous encore raser des forêts entières en ayant pris conscience que l'oxygène que l'on respire vient de l'arbre qui pousse dans la terre? Pourquoi les grandes puissances ne versent-elles pas une ronde pour les pays aux ressources vitales économiques bon, au plus bas? Pourquoi l'armée continue ses essais nucléaires? Tu en on le sait, tout vit dans les fonds des mers. D'abord un trou dans l'atmosphère, plus non-respect de l'environnement par les puissances qui détiennent le monopole de l'argent. L'industrie mondiale est coupable de l'usine nucléaire de Tchernobyl à la constante disparition de la mer d'Aral, de la forêt, de l'Amazonie. Alors putain d'économie qui régit la vie devant le pays, la disparition d'espèces animales et le fruit de ces conneries. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elles vont en accord avec les essais nucléaires. Non. Elles vont en accord avec la pollution des mers. Non. Appréciez-vous tous les déchets dans l'atmosphère. Non.
Ensemble le groupe Assassin avec ce titre L'écologie, sauvons la planète. On retrouve la seconde partie de notre entretien téléphonique avec Philippe Mulstein, membre du conseil scientifique d'Attaque.
Le problème le plus crucial auquel nous ayons à faire face, dans le monde, hein, pas seulement au plan européen, c'est quand même la question du changement climatique. Donc il y a eu récemment un plan climat-énergie présenté par l'Union européenne. Bon, je montrerai en quoi, face à l'urgence à laquelle nous sommes confrontés hein, pour le changement climatique, c'est-à-dire il est impératif dans nos pays industrialisés de diviser au moins par 4 et si possible par 5 nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, je montrerai que face à cette urgence, la politique environnementale de l'Union européenne fait de nombreuses impasses et qu'en en restant dans une panoplie de solutions qui sont fondées sur l'économie de marché et sur une écologie de marché, elle n'est pas, cette politique n'est pas à la hauteur de l'urgence à laquelle nous avons à faire face. Et enfin, je terminerai évidemment en présentant naturellement sous forme de piste, hein, ce ne sera pas un programme clé en main, mais j'essaierai de lister un certain nombre d'alternatives pour aboutir effectivement à une Europe écologique et sociale.
Oui, juste, c'est une expression intéressante, c'est écologie de marché. En fait, on a l'impression dans le discours qu'on entend un petit peu partout que finalement l'écologie, ça peut être une source de croissance. Comment vous voyez ça un petit peu
Alors, par écologie de marché, j'entends deux choses. Premièrement, le fait que, par exemple, pour reprendre le cas de l'effet de serre, on prétend ne lutter contre l'effet de serre uniquement avec des dispositifs de marché, tels que le commerce des permis d'émissions négociables, d'émissions de gaz à effet de serre. Bon. Et que constate-t-on? C'est que cette politique qui a commencé d'être mise en œuvre il y a quelques années est un échec total. De par la puissance des lobbies industriels au sein des instances de l'Union européenne, ils ont obtenu des permis d'émissions en quantité beaucoup trop importante et le résultat a été que sur le marché de ces 10 permis d'émission, eh bien le cours de la tonne de carbone s'est effondré. Donc aucun effet sur la diminution des émissions. Bon, autre effet pervers de cette commercialisation des permis d'émission, on a vu se créer à Londres, et il va s'en créer certainement d'autres, des fonds spéculatifs qui spéculent sur le cours futur des permis d'émission. C'est-à-dire qu'on retrouve exactement le même mécanisme qui nous a conduit à la crise financière que nous avons connue depuis à partir de 2006 et qui a touché l'économie réelle l'année passée, c'est-à-dire la création d'une espèce de bulle financière spéculative, mais sur des biens environnementaux. Donc on voit manifestement que ce système est complètement pervers. Et alors deuxième partie de ma critique contre l'écologie de marché, ce que vous disiez dans votre question, c'est on se dit on va pouvoir sortir de la crise par la création de ce que j'appelle une espèce de néo-capitalisme vert, qui correspond ni plus ni moins au principe suivant. Je pollue et après je me lance dans l'industrie de la dépollution, dans un cas comme dans l'autre, je gagne de l'argent. Seulement, le problème auquel nous sommes confrontés est mondial. Et il n'est pas certain que tous les pays soient capables de se lancer dans cette industrie de la dépollution. Donc, ça va concerner les pays occidentaux, les pays riches. Autrement dit, on va dire, nous, on va essayer de conserver un environnement vivable. Nous, les riches, les pauvres, tant pis qu'ils se débrouillent. Hein, surtout, en ce qui... Alors, ce genre de raisonnement est naturellement complètement inepte en ce qui concerne la question du changement climatique, puisque par définition, il concerne toute la planète. Et puis, c'est une fois de plus, comme on le fait avec les permis d'émission, c'est donner le pouvoir de soi-disant régler la question écologique à des gens qui en sont, en dernière analyse, les responsables. Donc il y a peu de chances qu'on y arrive de cette façon. Et d'ailleurs, il y a un parallèle à faire avec la crise financière, puisqu'on voit que en venant au secours, par exemple, sans contrepartie aucune des banques et des institutions financières qui ont spéculé et qui ont perdu tant d'argent, eh bien finalement, on confie aux incendiaires le soin de lutter contre l'incendie. Bon, en ce qui concerne le capitalisme vert, c'est un petit peu la même chose.